Père Marie-Josée, te revient l'honneur, la charge, la servitude, que sais-je encore, de venir un petit peu à partir des différentes interventions, de nous ouvrir encore un petit peu plus l'esprit.
Merci. Tu lis pas de.
Non, c'est terminé.
De texte inoubliable. D'accord. Bonjour. Je vais effectivement m'inscrire à côté, à la fois, j'ai l'impression. Au cœur de ce débat, je l'espère, et à côté de ceux que j'ai eu beaucoup d'intérêt à écouter. Parler de culture, c'est parler forcément de création, et je voudrais rappeler le grand mot, créer, c'est résister. Ce mot a été dit par Blanchot, ce mot a été redit par Deleuze, ce mot a été repris d'ailleurs par le comité des résistants au moment des grèves des étudiants. Rappelez-vous, créer, c'est résister. Donc je ne voudrais pas, bien que j'ai toute raison pourtant de m'associer aux plaintes, et je les partage, tenir le discours de la plainte et dire il n'est plus temps de se plaindre, il est temps de se battre. Et créer, si créer, c'est résister, alors on est là pour penser aux façons de se battre pour que la création existe, de façon à ce que la résistance soit elle-même création. C'est parce que créer, c'est résister, que résister a besoin des créateurs et que résister a besoin donc de l'art. On a dit la culture, donc qu'est-ce que c'est que la culture? Si l'art, c'est la création, alors qu'est-ce que va être la culture? Godard disait, la culture, c'est la règle, l'art, c'est l'exception. C'est l'art de commencer. L'art, c'est l'art de commencer. C'est l'art des premières fois. Vous avez dit que faire de la politique, ce qui était vos rôles, votre rôle, était une chose bien difficile. Oui, parce qu'elle est la gestion de la nécessité, elle est la gestion de l'inéluctable, et elle veut nous en convaincre. Si l'art est difficile, c'est pour une toute autre raison, parce qu'elle est le choix du possible, voire, comme on disait en 68, celui de l'impossible, pour le rendre possible. Alors, qu'est-ce que la culture? Je dirais d'abord, d'une façon générale, la culture, c'est l'ensemble, c'est ce qui est constitué par l'ensemble de la circulation de tous les signes et de toutes les choses, non pas entre des consommateurs, des clients, des usagers, des acheteurs, mais entre des sujets. La culture n'a rien contre la circulation, même commerciale, des objets et des signes. Simplement, elle institue cette circulation entre des sujets dont elle voudrait sans doute qu'ils deviennent des citoyens. C'est donc par le fait qu'elle distingue celui à qui il s'adresse, et non pas qu'elle fait des objets de la culture, des objets tout à fait hors du commun. La culture, ça passe aussi par la cuisine, par la parole, par la façon de saluer son voisin, de régler son voisinage. C'est aussi, évidemment, les œuvres, les grandes œuvres. Mais si ces grandes œuvres font partie exemplairement de la culture, c'est parce que, comme l'art de parler, d'inviter, de faire la cuisine, ou de serrer la main, ou de reconnaître l'autre, elle institue fondamentalement des sujets. Donc si la culture est cela, c'est-à-dire la fondation des sujets, il nous reste à savoir ce qu'est la politique. Or, on a parlé de la politique avec des politiques et des politiques culturelles, et or, il y a deux choses. Il y a le champ de la politique, du politique, et puis il y a la vie politique. Je dirais que le champ du politique, nous le savons, nous l'avons entendu, il est difficile. On nous dit même qu'il est difficile d'être transparent. Apparemment, c'est plus difficile d'être transparent que de s'exhiber. Donc il y a dans la gestion de la visibilité des paradoxes, n'est-ce pas? Plus on se fait voir, plus il est difficile d'être transparent. Allez comprendre. Mais en tous les cas, ce qui est important par rapport au champ politique désigné comme exercice du pouvoir, et il peut être un exercice noble, si la question de la représentation trouve sa légitimité. La vie politique, elle, est d'abord essentiellement, depuis l'époque des Lumières, l'exercice de la liberté. Si les citoyens sont concernés par la vie politique, C'est parce que ceux qui n'ont pas le pouvoir peuvent et doivent revendiquer l'exercice de leur liberté. C'est la liberté de ceux qui n'ont pas le pouvoir, la vie politique, et donc qui ont des comptes à demander sur la question de leur liberté à ceux qui exercent le pouvoir en leur nom. Donc, je voudrais maintenant revenir au moment où moi, en tant qu'humble philosophe, on est humble aussi chez les philosophes, comme chez les politiques, et la philosophie est chose difficile, parce qu'elle s'attaque précisément à l'obscur. Mais ce qui m'a éveillée, je dirais, de façon percutante, qui m'a engagée en tant qu'humble philosophe dans le champ d'une parole politique, je le dois, et je les en remercie, aux intermittents. C'est la crise des intermittents qui, tout d'un coup, a fait pour moi, de façon spectaculaire, la preuve symptomatique de ce qui se jouait politiquement dans notre pays. De quoi s'agissait-il ? Vous vous en souvenez, et c'est pas fini. Vous venez de dire que ça va repartir. Oui, et il faut que ça reparte. Parce que c'est pas réglé. Et pourquoi c'est pas réglé ? Parce que les intermittents posent la question du rapport du politique au spectacle. Et donc quelque chose là a été mis, le doigt a été mis sur l'essentiel de ce qui nous fait tant souffrir ou tant désespérer. Tout d'un coup, par mesure de ceux qui exercent le pouvoir, le travail de la création a trouvé un régime de disqualification de tout ce qui n'était pas visible. Le travail, le technicien, les coulisses, les échecs, l'écriture, la vie de tous les jours. Une disqualification de l'invisible qui passait évidemment par une disqualification du temps passé dans cet invisible. Donc une surqualification obvie, évidente. Une surqualification et même une valorisation, une estimation, une évaluation. Vous aurez 20 sur 20 si vous êtes vu tout le temps. On vous payera à la mesure de votre visibilité, de la visibilité de votre production. Et pour le savoir, ben, on prendra quoi comme critère ? Non plus les conditions de la création, mais celles de la diffusion, de la réception. Et comme on l'a entendu dire, il y a de plus en plus de ceci, il y a beaucoup de cela, on augmente de plus en plus de gens, etc. Bref, l'audimat, l'augmentation des spectacles, mesurée à l'augmentation du nombre des spectateurs. Par 10 fois, vous avez employé le mot « augmenter », 10 fois ou 12 fois, les termes « beaucoup, beaucoup ». Voilà. On est dans la quantification et la culture veut répondre à la question « combien ?». Cette crise des intermittents a donc tout d'un coup suscité une prise de conscience de ma part et de la part de beaucoup d'entre nous du fait que si l'on s'attaquait à la question du spectacle et si l'on disqualifiait l'invisible, c'est que quelque chose dans l'exercice du pouvoir était en train de confisquer le visible à son seul usage. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, on constate que l'exercice du pouvoir consiste à être un permanent du spectacle. Le besoin du « m'as-tu vu ?», ne pas être vu signifiant la perte du pouvoir, l'angoisse de ne plus être vu, qui a complètement articulé l'exercice du pouvoir à cette permanence d'un spectacle qui demande, non pas au ministère de la Culture ni à la création de lui donner les bases d'une vie politique, mais qui demande à une discipline qui s'appelle la communication, de prendre en main, d'ailleurs le ministère de la Culture préparait tout ça, puisqu'il devenait lui-même un ministère de la communication. Et donc les industries de la communication ont confisqué l'exercice de la liberté pour faire du pouvoir un pur exercice de la domination. Donc, quand je dis que créer, c'est résister, c'est effectivement qu'il y a Il y a eu, grâce aux intermittents du spectacle que nous devons défendre jusqu'au bout et accompagner jusqu'au bout, quelque chose qui relève de ce qui nous concerne tous au plus vif, à savoir l'exercice de notre liberté et l'espoir que nous pouvons encore garder de pouvoir exercer cette liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est la capacité pour chacun de nous, qu'il soit artiste ou pas. On n'a pas besoin d'être créateur pour défendre la liberté. Mais grâce au créateur, de nous réapproprier la capacité que nous avons tous, sans avoir le pouvoir, de devenir cause de notre action. De nous réapproprier ce que j'appelle notre puissance inaugurale, qui peut être, comme je le disais dès le départ, dans le domaine de la culture, celle de la puissance de la parole, de faire la cuisine, de régler un voisinage, d'accéder à des œuvres, d'avoir droit à l'éducation et d'exercer en ce sens tout ce qui fait de nous des sujets participant à une vie politique. Donc je voulais, pour finir, dire que si les intermittents du spectacle nous ont fait comprendre ce qui se jouait dans une mise en spectacle de la politique par du spectaculaire, ce dont il est question et à quoi je tiens, j'ai même fait un livre pour le défendre, c'est la défense du spectateur. En quoi le spectateur est lui-même promis ou non, ou se réapproprie ou non sa capacité d'être citoyen, c'est-à-dire de participer au débat toujours conflictuel, toujours compliqué, difficile, mais au débat de la vie politique, c'est-à-dire y participer pour prendre part aux décisions ou aux choix qui conditionnent, qui constituent les conditions de possibilité de notre vie en commun. Bon, est-ce que j'ai une minute? J'ai fini? Ah bon, j'ai fini. Non, je veux dire par là que je n'en ai pas fini et que je veux simplement terminer, puisque je dois m'arrêter, par le verbe poursuivre la création, accompagner la création, continuer à la lutte. Oui, nous avons de quoi nous plaindre, mais nous avons de quoi nous battre. Et l'art et la culture, avec tous les régimes d'articulation de l'un à l'autre qui font que l'un n'est pas l'autre, hein, et que les artistes sont les plus exposés et sont ceux que nous devons aider, accompagner, pour précisément qu'ils nous donnent accès à un partage du temps, à un partage de l'invisible. Le spectateur a lui droit aussi à la qualification de cet invisible qui s'appelle la circulation du sens. Merci.